Voilà, je vous avais promis l'invité surprise, le voici, un petit indice quand même. Mesdames et messieurs, je suis heureux de recevoir pour cette fête de la radio le prix Ondas. Bonjour monsieur le prix Ondas.
Oui, mais c'était en 1973, vous n'étiez pas né.
Ah, non, tout juste quand même. Bonjour Jean-Pierre Foucault. Qui n'a pas, je vais très bien Jean-Pierre, qui n'a pas reconnu Jean-Pierre Foucault, lève le doigt, honte sur lui. C'est vraiment un grand honneur et un grand plaisir de vous avoir Jean-Pierre aujourd'hui pour cette fête de la radio.
Ben, merci de m'avoir invité.
Ben, évidemment, évidemment. Tiens d'ailleurs, une question, en radio, on tutoie ou on vous voit ?
En principe, d'autant qu'on se connaît, donc il vaut mieux qu'on se tutoie. Donc,
ben, comme, sinon, ça fait... comme vous voulez Jean-Pierre.
On se connaît un petit peu, non ?
Un petit peu, oui, on a travaillé un petit peu ensemble quand même. Quel a été votre premier contact avec Radio Monte Carlo ?
Alors, quel a été ton premier contact ?
Oui, c'est vrai. Ah oui. J'ai beaucoup de mal, moi, à tutoyer accord, la radio. Hein. D'accord, allez, on dit. Quel
Mon
a été ton
contact
premier contact
avec Radio Monte Carlo ? C'était en 1966, à l'issue d'un concours qui avait été organisé par le regretté Jean-Louis Sarr. Et j'avais gagné ce concours avec Patrick Topaloff. En 66, nous sommes entrés... à RMC au mois de juin 66. J'ai toujours sous mes yeux, là, ici, dans mon bureau, je me trouve, ma lettre d'engagement. Et tout à côté, j'ai ma première lettre de renvoi, six mois après, le 31 décembre 66.
Six mois après, vous êtes viré, mais pourquoi?
Ben, parce que le directeur administratif qui s'appelait Frédéric de la Panouche, dont tout le monde se souvient, oui. M'avait dit, vous n'êtes pas fait pour faire ce métier. Donc, je ne l'ai pas suivi. Je ne sais pas si j'ai bien fait de ne pas le suivre.
Quelqu'un de particulièrement perspicace.
Et je suis parti à Europe 1. Je suis revenu ensuite, trois ans après, à Radio Monte Carlo pour y rester plus de 20 ans.
Ben, vous revenez dans les... Enfin, tu reviens, pardon. Il va falloir que je m'y habitue quand même, hein, à tutoyer. Tu reviens dans les années 70 jusqu'aux années 80, avec une pléiade d'émissions et puis des podiums, etc., etc. C'était quoi la radio à ce moment-là ?
La radio, c'était magique. La radio, c'était magique parce que c'était la liberté. Mmh. On était dans cet immeuble boulevard Princesse Charlotte, qui est un hôtel maintenant, que tu connais bien. Mmh. Et on avait un studio qui nous était affecté, nous, à la tranche du matin, et on arrivait à 8h le matin, et on quittait souvent le studio à 7, 8, 9h le soir, parce que on essayait d'inventer des trucs. Et puis, on avait une chance insolente, puisque les patrons qui nous engageaient étaient à Paris. Et qu'à Paris, on ne recevait pas Radio Monte Carlo. Donc, c'est génialissime. Pour quelqu'un qui avait envie de liberté, on faisait ce qui nous passait par la tête, tout en respectant, bien entendu, la principauté qui nous accueille, la famille princière, etc. Donc, indépendamment de cela, ce vent de liberté nous a permis d'avoir le succès que nous avons eu pendant près de 20 ans avec Léon.
Attends, justement, ton grand complice était Léon. Comment ça se goupillait avec Léon, cette osmose? Vous prépariez ou c'était vraiment de la pure improvisation tout
le temps? Non, c'était de l'improvisation préparée. pour simplifier les choses, on arrivait le matin très tôt à 7h, 7h30, pour savoir ce qu'on disait, parce que Jean-Louis Sarr nous avait donné une règle précise. Si vous voulez avoir du succès à la radio, ne dites jamais bonjour deux fois de la même façon. Donc nous, tous les matins, on avait un petit sketch différent et on arrivait et sans trop d'informations, parce qu'il faut savoir que les journaux à Monaco à l'époque, les journaux parisiens arrivaient vers 11h du matin. 11h, 11h30 du matin. Donc il fallait qu'on invente quelque chose. Et tous les matins, on inventait un sketch. Et ensuite, petit à petit, ben, c'est l'improvisation qui nous permettait de suivre. Mais au début... on couchait quelques phrases sur un petit morceau de papier, puis en voiture Simone, on y allait, voilà.
Et votre carburant, c'était quoi? Vous le dites vous-même, d'ailleurs, dans un moment.
Notre carburant, c'était le retour des auditeurs.
C'est pas ça que j'attendais. C'est pas ça que j'attendais. La déconne,
Qu'est-ce
vous disiez.
Ah bah oui, la déconne. Bah, la déconne, c'était l'évidence même. C'est ce qui a fait un peu notre succès, parce que avant, les auditeurs de la région et de tout le sud de la France écoutaient le Paris Inter, la radio qui était très pontifiante. Hein. Aujourd'hui, le président de la République. Voilà. Alors que nous, on parlait à la radio comme l'on parlait dans la vie. Et c'est ce qui a fait un petit peu notre succès. Et c'est tout extraordinaire. Et je me souviens avec beaucoup d'émotion de cette période magique que nous avons vécue. Nous étions à un moment presque 600 en comptant les régions, ce qui est énorme. Et plus de 150 à la maison de la radio à Monaco. Donc voilà, c'est comme ça.
Foucault et Léon, mais il y avait une troisième marronne.
Il y avait Carole Chabrier, que nous appelions affectueusement Carrion Chaviret.
Oui, bien sûr.
Cabriole Chaviret.
Certains y sont arrivés, mais d'autres non. Donc voilà. Non, c'était, c'était toute une équipe et ce qu'il y a de sympa, c'est qu'on s'aimait bien, on s'appréciait et on s'engueulait jamais. Je crois qu'on s'est jamais engueulé pendant 20 ans de radio.
Un petit peu votre souffre-douleur quand même, gentiment, mais...
Oui, mais il faut une répartition des rôles. Hein. Moi, j'ai eu du pot, je suis tombé sur le rôle de chef. Parce que Léon, il disait oui, chef. C'est de la chance, c'est de la chance.
Ça serait encore...
Chef, ça doit savoir se faire respecter et ça doit avoir l'autorité nécessaire. Donc, il semblerait que je l'ai eu. Et voilà, mais c'est une répartition de rôle. Mais dans la vie, nous étions sur un pied d'égalité, évidemment, dans la vie normale.
Ça serait encore possible de faire exactement ce qu'on a envie de faire aujourd'hui à la radio?
Non, parce qu'aujourd'hui, c'est contrôlé, c'est minuté, c'est... on peut pas dire plus, on peut pas parler pendant tant de minutes sans que ce ne soit. Non, c'est plus la radio. Aujourd'hui, la radio est filmée, ce qui est une aberration totale, parce que la radio, ce qui faisait sa force, c'est qu'elle ne soit pas filmée, c'était le rêve, l'imaginaire de l'auditeur. Si tu avais 1000 auditeurs, il y avait 1000 décors différents. Là, maintenant, on impose quelque chose, ce qui est complètement grotesque. On ne permet plus à l'auditeur de rêver. C'est dommage.
Qu'est-ce que vous avez préféré lors de ces émissions, c'était la matinale, c'était les grands rendez-vous quotidiens, les
opèques,
le podium.
On a tout fait. C'est un tout en fait. C'est un tout la radio. Nous, notre cœur, notre socle, c'était 9h midi. Hein. Mmh. Et puis chercher le disque entre 4 et 5 l'après-midi de temps en temps. Mais ce qui faisait notre force. C'est que nous allions une ou deux fois par semaine dans une ville différente. On a inventé ça. Nous, on a inventé les voitures émettrices avec les voitures relais. Et moi, deux fois par semaine, je faisais des émissions dans toute la zone d'écoute de Radio Monte Carlo, ce qui nous permettait d'être extrêmement connus et appréciés et d'appuyer, de maintenir notre audience. Et puis l'été, il y avait les podiums. C'est un tout. C'est pas simplement un seul métier où on est confiné à un siège au studio 4 au bout de la Princesse Charlotte. Non, on faisait beaucoup, beaucoup de choses.
Vous aviez un réservoir d'auditeurs aussi, c'était à Marseille, votre ville. C'est cette proximité-là aussi qui explique votre succès?
Je ne sais pas, mais en fait, Marseille a été un peu la capitale de Radio Monte Carlo pendant des années, et c'est ce qui fait que moi, je savais de quoi je parlais. Hein. Ce qui évitait de dire Montpensier, le quartier de Montpensier, alors que c'est même Pensier. Hein, voilà. Ce qui évitait de dire Caneloni, alors que c'est Caneloni. Voilà, c'est un peu la différence avec d'autres animateurs.
Et pourquoi est-ce que le public s'est détourné lentement, mais sûrement de Radio Monte Carlo?
Très simplement, le public s'est détourné de Radio Monte Carlo parce que Radio Monte Carlo ne s'est pas rendu compte que depuis 1980, des concurrents se sont installés petit à petit. On les a laissés s'installer et nous nous sommes assis dans notre confort, dans notre plan-plan quotidien, en disant non, nous on existe, on est là depuis la fin de la guerre, ou pratiquement la fin de la guerre, on a toujours été leader, on sera toujours leader ad vitam aeternam, ce qui était une erreur grossière, et on n'a pas fait attention, on ne s'est pas méfié de ces radios qui au départ étaient libres, qui n'étaient pas vraiment, mais local et la FM qui a petit à petit mangé notre part de marché. Et puis, il y avait des obligations, des contraintes, où il fallait que obligatoirement, tout se passe en principauté de Monaco et les syndicats étaient très puissants à cette époque et c'était très compliqué de faire venir du monde en permanence à Monaco parce que les gens talentueux avaient également une activité à Paris. Donc c'était plus la petite radio régionale, mais il fallait qu'on devienne une radio nationale et malheureusement, on n'a pas eu les moyens, ce que je regrette.
En fait, tu as eu deux périodes à RMC. Tu as eu la période animateur, avec le succès qu'on connaît, et puis directeur des programmes en 94. Et là, c'était plus compliqué, c'était plus lourd à supporter comme casquette. La radio n'allait pas bien.
C'était plus compliqué parce qu'il fallait 60-40, 60% à Monaco, 40% à Paris. Et c'était très, 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 très compliqué. Et chaque fois qu'on avait envie de faire quelque chose, certains prenaient un malin plaisir, je ne sais pas pourquoi d'ailleurs, à mettre des bâtons dans les roues, ce que je regrette. Mais enfin bon, on ne va pas refaire le passé, c'est ainsi. On était trop lourd, on était trop gros, on était trop nombreux, malheureusement, pour faire un programme que d'autres faisaient à 5 ou 6 personnes.
Oui, évidemment. Et la question qui tue maintenant, Jean-Pierre, c'est mieux la télé ou c'est mieux la radio?
Certainement pas, non, c'est mieux la radio. Moi, je préfère la radio, incontestablement. Parce qu'il y a une véritable... La radio non filmée, je précise.
Oui.
Parce que incontestablement, à la radio, on peut faire beaucoup, beaucoup de choses. On peut provoquer l'imaginaire. Moi, pendant des années, j'ai dit, comment ça va, Léon? Les gens étaient persuadés que nous étions côte à côte. Alors que la plupart du temps, moi, j'étais à Paris et lui à Monaco. Alors, on pourrait plus faire ça avec la télé filmée. Moi, il me suffisait de dire à Léon, elle est dans votre cravate, elle est pas terrible, pour que pas les gens, automatiquement, nous voient ensemble, alors que nous ne l'étions pas. Donc, ça, c'était une magie. On peut tricher, entre guillemets, pour la bonne cause et raisonnablement à la radio. On peut faire semblant, on peut marquer des silences qui font que l'auditeur, d'un seul coup, se rapproche du poste et essaie de savoir ce que vous allez dire ensuite. Non, incontestablement, la radio, c'est magique. Alors qu'à la télé, on impose votre cravate, on impose votre visage, on impose la goutte de transpiration qui coule le long du front, voilà.
Et à qui parle-t-on quand on parle à la radio ? À un auditeur, à un groupe, à tout le monde ?
Non, ça c'est très compliqué. C'est compliqué, parce que hein. C'est très compliqué. Au départ, moi je pensais que je parlais à quelqu'un, mais là, ensuite, petit à petit, avec, avec l'habitude, on sait... Moi, j'avais envie de parler à ceux, j'avais envie de parler comme moi, j'aurais eu envie d'écouter. Donc voilà, ça paraît un peu compliqué, mais ce que je disais en tant qu'auditeur, ça m'aurait pas trop déplu.
Où est-ce qu'on verra Jean-Pierre Foucault, ou est-ce qu'on entendra Jean-Pierre Foucault dans les jours qui viennent ou les semaines qui viennent ?
Ben Jean-Pierre Foucault, il a 73 ans, donc... Il a fait valoir ses droits à la retraite, et monégasque et française, et de temps en temps, vous me voyez, puisque je travaille pour la Française des Jeux et TF1 une semaine par mois, les miss que j'ai conservées, mais sinon j'ai pris moi la décision de prendre du recul et enfin de voyager. Et curieusement, dès l'instant où j'ai pris la décision de prendre du recul et de voyager, les voyages sont devenus impossibles. Ah, la vie est vraiment malsaine.
Merci Jean-Pierre, c'était vraiment très sympathique de répondre à nos questions.
À bientôt, j'espère en tout cas.
J'en suis sûr.
C'est toujours grand plaisir à venir en principauté.
Vous êtes le bienvenu, tu es le bienvenu, pardon, j'en suis sûr. On se reverra au hasard des ondes.
Salut.
Salut.
Vous êtes près de 5 millions d'auditeurs à l'écoute de Radio Monte Carlo, 1400 mètres onde longue, la station du sud de la Loire qui fait maintenant rayonner le soleil de la Méditerranée jusqu'aux portes de Paris.
Émission spéciale, ne manquez pas la fête de la radio du 31 mai au 6 juin prochain.
À l'occasion de la fête de la radio, Séquence FM et Radio Éthique réalisent conjointement une émission spéciale à Monaco. Retrouvez sur nos ondes les moments forts de cette journée.